Pour débuter, dressons le portrait de Joseph Kabila, figure centrale en RDC. D'abord propulsé à la tête du pays, après l'assassinat de son père en 2001, il incarne alors l'espoir d'un renouveau post-Mobutu. Mais comment expliquer l'ascension fulgurante d'un homme si jeune à la présidence?
C'est en effet remarquable. À 29 ans, Joseph Kabila devient président dans un contexte de guerre et d'éclatement du pays. Sa jeunesse rassure une partie de la population fatiguée des anciens barons du régime Mobutu. Toutefois, cette ascension s'explique aussi par une tradition africaine où le pouvoir reste dans la famille, comme on l'a vu au Togo ou au Gabon.
Vous évoquez la symbolique familiale, mais n'oublions pas la dimension internationale. La communauté internationale, notamment l'ONU, a soutenu la transition sous Kabila fils, espérant stabiliser la région. Peut-on dire que Kabila a été façonné autant par les attentes congolaises qu'étrangères ?
Les puissances étrangères misaient sur lui pour préserver l'accès aux ressources stratégiques, cuivre, cobalt, or. Les élections pluralistes de 2006, organisées sous sa houlette, ont été saluées, mais il s'agissait aussi de garantir une façade démocratique susceptible de rassurer investisseurs et partenaires occidentaux.
Avant d'aborder la période plus sombre de son règne, rappelons qu'à ses débuts, il a réduit l'intensité des conflits à l'Est et instauré une relative liberté de la presse. Ces avancées n'ont-elles pas contribué à forger une image de sauveur, du moins temporairement ?
Dans les faits, oui. En 2003-2006, la violence diminue, la presse s'émancipe et la RDC reçoit le soutien d'organisations internationales. Mais les racines des conflits, notamment les rivalités sur l'accès aux minerais dans l'Est, n'étaient que gelées, non résolues. Cette accalmie était donc fragile.
L'ouverture du procès pour haute trahison contre Kabila, il est accusé d'avoir soutenu le M23 AFC, un groupe rebelle qui contrôle des territoires stratégiques à l'Est. Pourquoi ce procès est-il sans précédent en RDC et même en Afrique ?
C'est inédit pour plusieurs raisons. D'abord, il s'agit d'un ancien président jugé par la justice de son pays, non par la CPI. Ensuite, les chefs d'accusation crimes contre l'humanité, participation à une insurrection, sont d'une gravité extrême. Cela crée un précédent qui pourrait influencer la manière dont d'autres États africains traitent les ex-chefs d'État.
La question de la légitimité du procès divise. Pour les partisans de Kabila, il s'agirait d'une instrumentalisation judiciaire orchestrée par Tshisekedi. Il rappelle qu'il a maintenu la RDC unie dans une période de guerre et de fragilité institutionnelle, négocié des accords régionaux qui ont permis un retrait progressif de certaines forces étrangères et évité un effondrement total de l'État. Il souligne aussi qu'en restant discret sur la scène internationale, il aurait limité les ingérences directes, y compris celles de Kigali, malgré les tensions persistantes avec Paul Kagame. Les faits reprochés à Kabila peuvent-ils réellement être dissociés du contexte politique actuel ?
C'est toute la complexité du dossier. Dès 2019, Tshisekedi a cherché à briser l'influence de Kabila, notamment par la dissolution de coalitions parlementaires. On peut y voir une lutte classique pour le contrôle du pouvoir, mais aussi un effort pour répondre à une demande populaire de justice. La levée de l'immunité de Kabila par le Sénat, suivie de son inculpation, illustre ce bras de fer. Ses détracteurs l'accusent d'avoir prolongé son mandat au-delà de la Constitution, bradé les ressources minières à travers des contrats opaques, et plus récemment, d'avoir tissé ou toléré des liens avec le M23 AFC. Le nom de Corneille Nanga, aujourd'hui figure politique alliée du MV3, revient souvent comme possible intermédiaire. Pour certains, Kabila aurait entretenu ses réseaux pour conserver une influence militaire et politique à l'Est, quitte à s'aligner sur des forces associées au Rwanda de Paul Kagame, un adversaire officiel de Kinshasa.
Notons que le procès se déroule en l'absence de Kabila, à sa propre demande. Certains y voient un signe de défi, d'autres une stratégie pour éviter un procès spectacle. Que révèlent ces choix procéduraux sur la crédibilité du système judiciaire congolais ?
Ils illustrent l'ambiguïté de la justice congolaise d'un côté et la volonté d'affirmer la souveraineté judiciaire de l'autre, la crainte d'un procès trop politisé. Les audiences très suivies posent la question, s'agit-il d'un vrai procès en justice ou d'un théâtre politique ?
Et si l'affaire Kabila n'était pas seulement un procès national, mais le révélateur d'un jeu d'alliance et de rivalité qui dépasse largement les frontières congolaises ?
La RDC n'est pas un îlot. Dans la région des Grands Lacs, chaque mouvement armé est relié à un réseau complexe de soutien, d'alliances et de rivalités. Les accusations contre Kabila ne se limitent pas à une affaire intérieure. Elles touchent à la relation avec le Rwanda et l'Ouganda, souvent accusés d'être derrière le M23. Si les charges sont prouvées, elles bouleverseraient la lecture habituelle des alliances régionales, plaçant un ancien chef d'État congolais du côté de force que Kinshasa combat officiellement.
Au cœur des Africains ?
Au niveau continental, l'affaire Kabila est scrutée par l'Union africaine et par plusieurs chancelleries africaines. Pour certains gouvernements, le procès pourrait devenir un précédent, un chef d'État africain jugé pour trahison et crimes graves, non pas par la CPI, mais par la justice de son propre pays. Pour d'autres, c'est un signal inquiétant, celui d'une justice potentiellement instrumentalisée dans les luttes politiques internes. Les pays qui avaient vu Kabila comme un stabilisateur discret, notamment en Afrique australe, craignent que son affaiblissement ne fragilise les équilibres régionaux.
Sur la scène internationale?
Sur la scène internationale, ce procès dépasse le cadre du droit. La RDC est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de cobalt et de cuivre, minerai stratégique pour la transition énergétique et les industries de haute technologie. Les partenaires économiques de la Chine aux États-Unis, en passant par l'Union européenne, suivent de près l'issue du procès, conscients que le verdict pourrait influencer le contrôle politique et économique de ces ressources. Dans un contexte où les puissances mondiales cherchent à sécuriser leurs chaînes d'approvisionnement, la question est simple. Un Kabila affaibli ou neutralisé signifie-t-il un accès plus facile aux ressources, ou au contraire un vide qui risque d'attiser l'instabilité?
Pour conclure, comment l'affaire Corneille Nangaa complique-t-elle la défense de Kabila?
Ancien président de la CENI sous Kabila, Corneille Nangaa est aujourd'hui présenté par plusieurs observateurs comme un relais politique du Moving 3 AFC. Sa proximité passée avec Kabila alimente les soupçons d'un réseau structuré et ancien entre l'ex-président et la rébellion. Pour l'accusation, cela renforce l'idée d'une trahison planifiée. Pour la défense, ce n'est qu'une culpabilité par association sans preuve directe.
En cherchant à rassembler l'opposition au Sénégal, Joseph Kabila peut-il réussir à relancer un front politique et verra-t-on réapparaître Matata Ponyo?
L'initiative de Kabila de convoquer des figures de l'opposition hors du pays, au Sénégal, est perçue comme une tentative de reconstruire un bloc capable de contrebalancer Tshisekedi sur la scène nationale. Le nom de Matata Ponyo, ancien premier ministre qui se cache, circule comme possible allié dans cette manœuvre. Mais le succès reste incertain. L'opposition congolaise est historiquement fragmentée, les alliances se font et se défont vite, et les pressions régionales, notamment l'ombre de Paul Kagame dans les tensions à l'Est, compliquent toute coalition durable.
Dans la société congolaise, le débat reste vif. Pour les uns, Kabila a préservé la paix relative, pour d'autres, il a confisqué l'avenir du pays. Ce procès aura-t-il le dernier mot, ou la mémoire collective restera-t-elle marquée par cette dualité?
Le verdict judiciaire ne tranchera pas tout. Comme l'a montré l'exemple sud-africain avec la pré-apartheid, la réconciliation nationale passe autant par la justice que par la reconnaissance des mémoires blessées. Le Congo, à travers ce procès, affronte son passé, mais aussi son avenir incertain.